Bonjour, vous êtes sur 100 mots de tête et aujourd'hui nous recevons Céline. Nous avons rencontré Céline à l'association Performande où elle est formatrice pour des futurs auxiliaires de vie. Céline est maman relais de l'association Handiparentalité dont le but est d'aider des personnes en situation de handicap qui ont un désir d'enfant. En effet, Céline est IMC, infirme moteur cérébral et maman d'une petite fille.
Bonjour, je suis Céline. J'habite sur Grenoble depuis à peu près 10 ans. Je suis comportementaliste de formation, c'est-à-dire que j'aide les personnes en situation de handicap à éduquer eux-mêmes leurs chiens d'assistance. Donc ça, c'est ma formation de base. Je suis aussi formatrice à Expertise Performante. Voilà, une structure de formation d'auxiliaire de vie. Et là-bas, j'apporte mon témoignage de vie en tant que personne IMC, en tant que maman et en tant que formatrice spécialisée. Enfin, disons que je me professionnalise dans le milieu de la parentalité et du handicap. Je suis maman relais de l'association Handiparentalité, dont le siège est à Bordeaux.
C'est quoi ça, maman relais ?
Alors, le rôle des mamans relais et qu'est-ce qu'une maman relais ? En fait, voilà, je vous explique. Quand il y a une famille qui vient vers moi, c'est des familles qui peuvent être en demande de parentalité, ils peuvent avoir des questions, des craintes, des peurs, ou alors déjà des familles déjà composées avec des enfants qui ont des difficultés, ils peuvent venir me voir, je peux aider, conseiller, parce que je travaille en réseau avec l'association Handiparentalité donc qui est à Bordeaux, avec une structure qui s'appelle le SAPPH sur Paris. C'est une structure qui est à la Sainte-Pétrière à Paris, donc il y a une structure pour recevoir les personnes en situation de handicap, désireux d'être parents. Ma mission, c'est d'aider les personnes, répondre à leurs questions, apporter le soutien selon mon expérience et de faire le lien, quand je peux, avec des professionnels. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'association Handiparentalité ?
Alors, moi-même, j'avais une envie de devenir maman, mais sachez que c'est pas une envie qui m'est arrivée. Enfin voilà, on pense beaucoup que beaucoup de femmes, ça peut être naturel le désir d'être maman, mais pas moi. Avant d'avoir le désir d'être maman, il m'a fallu faire un grand chemin, notamment par rapport à mon rapport avec mon corps. J'avais un chemin à faire par rapport à ça, parce qu'il était essentiel pour moi avant de pouvoir accueillir un enfant dans mon ventre, que je me sente bien dans ma peau et bien d'abord en tant que femme. La présidente de l'association Handiparentalité s'appelle Florence Méchécaz. C'est une personne avec qui j'ai fait une partie de mes études et j'étais au courant qu'elle avait été elle-même maman et qu'elle avait créé une association. Et du coup, j'ai pris contact avec elle et je me suis engagée dans l'association, d'abord dans un premier temps, en gérant le forum de l'association, ce qui m'a permis de rentrer en lien avec des parents déjà en situation de handicap. C'était une de mes étapes essentielles pour pouvoir me lancer dans notre projet avec mon conjoint, parce qu'il a quand même une place prépondérante aussi dans le projet. N'oublions pas les papas.
Quel est le but de cette association ? Combien y a-t-il de membres ?
Aujourd'hui, on doit s'élever à 50 adhérents, c'est-à-dire avec une carte d'adhésion à l'association. Et le but de cette association, elle s'appelle Handiparentalité, reconnaissance, partage et besoin. Reconnaissance dans le statut de parentalité, parce que c'est vrai qu'en tant que personne en situation de handicap, on n'est pas encore bien reconnu, malheureusement. Donc voilà, au niveau de la reconnaissance, partage, pour partager les expériences en tant que parent, on essaie de faire du réseau, tous ensemble, et besoin, on essaie d'apporter des astuces aux professionnels, si bien qu'aux futurs parents ou parents, en termes de matériel, de puriculture, parce que je vous informe peut-être du fait qu'en puriculture, il n'y a rien d'existence et tout du système D pour les familles ou pour les professionnels. Voilà, donc il y a un gros travail encore à faire dans le domaine et c'est pour ça que je suis là.
Comment cette association aide-t-elle les personnes en situation de handicap à être parents ?
On essaye d'apporter une aide individuelle aux familles parce que à handicap égal, tout accompagnement est individualisé et différent parce que toutes familles n'ont pas les mêmes attentes. Donc on essaye de s'adapter. Ça peut être un besoin au niveau puriculture pour le portage de l'enfant, un besoin d'aide au logement, un besoin d'aide d'un point de vue médical, d'où l'importance de faire du lien avec les professionnels. Voilà, c'est une aide un petit peu à la carte selon les besoins des familles.
Et est-ce que vous aidez que les parents de jeunes enfants ou aussi des parents plus vieux qui viennent d'avoir un accident et qui savent plus s'occuper de leur enfant, de leur ado par exemple ?
Oui, alors on aide toute famille en situation de handicap moteur. Malheureusement, on n'est pas encore formé au handicap psychique ou mental. Voilà, on aide toute famille en situation de handicap moteur pour l'instant. Mais on demande qu'à être formé, on demande qu'à être informé aussi. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Est-ce que dans votre association, il y a des gens formés pour le handicap sensoriel, pour les parents pour le handicap sensoriel ?
Alors oui, pour le handicap visuel un peu. Et au niveau de l'association, on se forme petit à petit au langage des signes. On y est très sensible. Et je voudrais vous rajouter que l'association Handiparentalité travaille avec une structure qui s'appelle le Centre Papillon. Donc c'est un centre dédié à la parentalité et qui est ouvert à tous. Et dans ce Centre Papillon, il y a un service qui s'appelle l'indispensable, là où il y a handiparentalité en fait qui intervient pour apporter l'aide aux parents, entre parenthèses, un peu différents, avec des spécificités différentes. Et dans cette structure, vous pourrez avoir des ergothérapeutes, des psychologues et donc des mamans expertes en handicap moteur qui pourront apporter des conseils en portage ou autres selon l'expérience.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que maman ?
Alors, j'ai eu plusieurs difficultés, puis comme tout parent, j'en rencontrerai encore certainement. Alors, les premières grosses difficultés, c'est que je suis infirme moteur cérébral, donc IMC, et j'ai des problèmes au niveau de la motricité fine, des problèmes, par exemple, justement de portage, pour porter mon enfant. Donc avec mon conjoint, on avait énormément anticipé beaucoup de choses, on avait contacté des associations de portage, etc. Il s'avère que quand ma fille est née, cette association de portage s'est désistée. Donc ça a été la première grosse difficulté pour moi, c'était comment j'allais me débrouiller seule à porter mon enfant quand on a des problèmes de motricité fine, quand on porte la chair et son sang et qu'on a des difficultés à ce moment-là, ça a été très très dur. Mais j'ai trouvé des systèmes D, notamment avec un transat à hauteur, et j'ai poussé ma fille comme ça dans mon logement, fauteuil électrique, et j'ai même fait des vidéos, et la vidéo vous pourrez la trouver prochainement sur le site d'Handiparentalité. Ensuite, sachez que j'ai fait appel à un service en lien avec la PMI et avec l'association Handiparentalité qui s'appelle des TISF. C'est des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Parce que je vous informe peut-être que vous n'êtes pas au courant, les auxiliaires de vie que je rémunère dans le cadre de ma PCH, la prestation de compensation handicap, ne sont pas censés nous aider avec notre enfant. En fait, la prestation de compensation au handicap est faite pour m'aider moi en tant que maman, parce que la prestation est une aide à la personne et non pas une aide à la famille. C'est pour ça qu'il y a des TISF qui sont, elles, spécialisées à nous aider avec nos enfants. Donc elles sont venues à la maison tous les jours, toute l'après-midi, pendant, on va dire, 5 mois. Et les 4 premiers mois À l'arrivée de ma fille, je me suis débrouillée seule. Et ça a été très dur. Mais on s'en est sorti. C'est l'essentiel. Voilà. Ensuite, j'ai demandé donc cette prise en charge jusqu'à ce que ma fille ait 18 mois, c'est-à-dire une démarche stable. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu moins peur, moi, de la faire tomber. Et je me suis débrouillée avec mon conjoint. Mais c'est vrai que le passage de la petite enfance vraiment bébé jusqu'à l'âge de 18 mois, pour moi, ça a été dur. La deuxième grosse difficulté, ça a été la gestion des aides humaines à la maison. Avoir des auxiliaires de vie, matin et soir, plus des TISF, c'était vraiment compliqué à gérer. Je vous jure, à la maison, sans vous mentir, je me sentais un petit peu chef d'entreprise et je devais gérer un peu tout ce monde autour de moi. Et j'avais des difficultés avec mon conjoint qu'on ait justement notre intimité de couple. Et je me suis sentie très vite jugée. On ne me laissait pas le temps de prendre les décisions pour mon propre enfant. Alors que j'étais mère seulement depuis quelques jours, il fallait tout de suite que je décide de plein de choses. Et j'avais pas assez d'espace. Je vous avoue même qu'avec mon conjoint, ça a été difficile. Et ça peut l'être toujours. Mais ce qui est important, je pense, et je le répéterai à plusieurs reprises durant cette interview, c'est la communication. Que ça soit avec le conjoint, l'auxiliaire de vie ou la TISF, ce qu'il faut, c'est communiquer au mieux. Et moi, je demande aux professionnels d'être le prolongement de moi-même. C'est tout.
Moi aussi, comme j'étais handicapée, personne de ma ex-belle famille, personne ne voulait changer la couche de mon fils. On était chez eux. Et je leur ai dit, moi je peux. Et là, ils étaient tous surpris. Après, ils m'ont ramené les lingettes, la couche. Et là, je l'ai fait vraiment toute seule. Et tout le monde était vraiment surpris, quoi. Tout le monde me regardait avec des gros yeux.
Et vous, qu'est-ce que vous vraiment... avez ressenti?
Moi, j'ai senti que j'étais vraiment fière, quoi, qu'ils étaient tous là en train de me regarder. Et que moi, j'y arrivais, quoi. J'étais vraiment fière, voilà.
D'accord.
Je voulais savoir si avant votre maternité, vous avez eu justement des moments, entre guillemets, d'entraînement, de...
Pour vous répondre, malheureusement, j'ai eu connaissance que tardivement d'une structure qui s'appelle le SAPPH à Paris. Voilà, c'est un service qui est ouvert aux parents en situation de handicap moteur et sensoriel, justement. Et moi, j'étais déjà enceinte de 8 mois quand j'ai pris connaissance de ce service. Donc, je ne pouvais plus faire de voiture. J'ai pas pu m'entraîner sur un poupon lesté, chose qu'on fait et qu'on prépare au centre Papillon, donc à Bordeaux, ou SAPPH à Paris. Voilà. Il y a aussi le changement de couche. Pour moi, ça a été difficile parce que je l'ai très peu fait avec mes nièces. Je me sentais clairement pas capable de le faire avec mes nièces et je me sentais très observée, soyons clairs, par les membres de ma famille. Et il a fallu vraiment que je m'entraîne quand ma fille est née, parce que quoi qu'on puisse en penser, ça n'engage que moi. Même avec un poupon lesté, c'est loin d'être la réalité avec un enfant qui bouge et qui, même si j'allais y venir, je reste persuadée qu'un enfant s'adapte à son parent. Mais sachez qu'il ne s'adapte pas toujours au moment où on le voudrait. Moi, ma fille, pour changer la couche, elle a toujours bougé. Elle m'a mis un calvaire, mais une misère. Je peux vous jurer que je ne fais pas de régime, mais j'ai perdu pas mal de grammes en lui changeant la couche. Mais elle s'est adaptée après. Elle s'est adaptée après, à l'âge de 18 mois, elle a commencé à s'accrocher à mes cale-pieds et une fois qu'elle a été debout, elle est partie. Et là, j'ai eu plus besoin de l'aide de personne depuis ce jour, hormis forcément, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais j'ai eu un beau soutien de la part de mon conjoint et ce soutien qui est toujours aussi fort aujourd'hui, aux 5 ans de notre enfant. Voilà.
Qu'est-ce que ça change dans le regard des autres quand on est handicapé et parent ?
Parfois, c'est difficile. Parce que je vous avoue que quand ma fille était bébé, me promener dans le tram avec mon auxiliaire de vie, au début, mon conjoint ne m'avait pas fait l'adaptation et c'était mon auxiliaire de vie qui poussait la poussette. Et alors, quand on s'adresse à l'auxiliaire de vie et que, quand une passante lambda vient vers l'auxiliaire et qu'elle dit « Ah ben, elle est belle, votre petite !» et que l'auxiliaire est obligé de dire « Ah mais non, mais vous savez, la petite, c'est à elle, c'est à la dame. » et qu'on vous répond « Ah oui, elle, elle peut !» Donc ben là, je peux vous assurer que ça choque. Donc oui, il peut y avoir un peu parfois... des choses un petit peu difficiles à entendre, mais ça change. Moi, en tant que femme, ça m'a complètement changée. Il y a des parts de moi-même qui se sont révélées et je me suis affirmée en tant que femme. Ma maternité m'a affirmée en tant que femme. Voilà. J'étais, avant d'être maman, quelqu'un de très carriériste. Mes études ont beaucoup compté dans ma vie. Malgré mon handicap, j'ai réussi à aller jusqu'à la fac. J'ai un master en communication. Je suis IMC, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en gros, entre parenthèses, on ne donnait pas cher de ma peau au niveau de mes études. Ça n'a pas été facile, mais je me suis accrochée. Et j'ai réussi à avoir mon master dans un cycle entre guillemets, je mets bien des guillemets partout, entendez-moi bien, normal. Voilà, j'ai été scolarisée en milieu valide à partir de la quatrième. Et pour moi, ce n'était pas forcément une fin en soi de devenir maman. C'était loin d'être ma préoccupation première. Et j'ai eu envie d'être maman, surtout parce que j'ai rencontré un conjoint qui était d'abord lui très désireux de devenir papa et qui m'a permis d'avoir confiance en moi et qui m'a dit « Moi, je te suivrai et je ne te lâcherai pas dans ce projet. »
Est-ce que vous comptez en avoir d'autres enfants ?
Alors, avec mon conjoint, on y a réfléchi. On a décidé que non. On a décidé qu'on préférait avoir une enfant avec un logement qui me soit adapté, parce que c'est le logement pour une personne en situation de handicap, parce que je le rappelle, vous ne me voyez pas, mais je suis en fauteuil électrique, et les aménagements, l'installation, mon installation, c'est quelque chose de compliqué. Actuellement, je vis dans un T3, donc qui dit deuxième enfant dit nouveau logement, et on n'a pas envie du tout de faire ce sacrifice, on est bien là où on est. Alors c'est vrai qu'on a pensé à notre enfant, on s'est dit, oui, mais plus tard, elle va être seule, etc. Mais en y réfléchissant, on se dit qu'elle a ses cousines, elle aura ses amis, et parfois, vaut mieux les amis qu'on choisit que sa propre famille. Avec l'éloignement, le futur, le travail, de toute façon, moi, je ne fais pas un enfant pour moi-même, je fais un enfant parce que j'estime que la vie est belle et mérite d'être vécue. Donc je fais un enfant pour qu'elle soit épanouie, bien dans ses baskets, et qu'elle découvre le monde. Et pas pour moi-même. Donc voilà, l'important pour moi, c'est qu'elle soit bien dans son environnement et qu'on puisse subvenir à ses besoins tant qu'elle aura besoin de nous, si elle le souhaite. Sans pour autant en faire une enfant gâtée ni quoi que ce soit, mais on voudrait pouvoir répondre présent tout au long de sa vie, si elle en a besoin.
Est-ce que ça a été difficile de rencontrer des hommes avant de connaître ton conjoint ?
Alors Nicolas, je te l'ai dit, hein, moi j'ai pas de tabou sur la question, donc ça me dérangera pas du tout de te répondre. On va dire que j'ai vécu une adolescence assez, encore une fois, classique, normale, ce que vous voulez, parce que j'aime pas trop ce mot-là. Disons que voilà, j'ai été scolarisée avec des personnes valides à partir de la quatrième. Et on va dire que relationnellement parlant, bah, j'avais pas de très grosses difficultés. Et j'ai envie de vous dire, pour ceux qui doutent, ce qu'il faut, c'est que vous ayez confiance en vous. Et c'est l'image, je pense, hein, c'est l'image qu'on renvoie nous de nous-mêmes qui compte beaucoup. Et voilà, ayez confiance en vous. Et je pense que les choses qui doivent se faire se font assez naturellement. Voilà. Chaque famille, chaque parent ont des difficultés. Moi, c'est clair, j'ai une difficulté physique en plus, mais n'oublions pas tous les handicaps invisibles. Donc, c'est pas plus facile ou plus dur pour personne. On a tous nos difficultés et à nous tous de trouver justement les moyens pour affronter nos obstacles, pour arriver à nos objectifs.
Je trouvais ça beau quand vous disiez que votre fille, elle grimpait à 18 mois, elle s'est mise à votre portée en fait, et vous vous mettiez à sa portée, mais elle aussi, elle, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Mais sachez aussi que depuis que j'ai été enceinte, j'ai pratiqué l'aptonomie. C'est une forme de communication in utero en fait. Et depuis qu'elle est dans mon ventre, on a pu communiquer avec le papa comme ça, par l'intermédiaire de massages in utero. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé à notre enfant et je pense que ça joue. Voilà, du coup, votre question me permet de rebondir sur un élément essentiel. C'est par rapport à la prise en charge des personnes en situation de handicap d'un point de vue gynécologique. Parce que là, je vous parle de l'aptonomie. L'aptonomie, ça se pratique avec des sages-femmes. Mais bien entendu, il nous faut un suivi gynécologique. Et c'est quelque chose qui ne va pas de soi, malheureusement, encore aujourd'hui, pour les professionnels. Parce que voilà, j'ose le dire, pour beaucoup de professionnels qui disent personnes handicapées ou en situation de handicap, ben restent des personnes asexuées. Or, détrompez-vous, j'ose vous dire tout le contraire. Mon enfant n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit et en tant que personne en situation de handicap, nous avons tous des désirs, qu'ils soient parentaux ou non. Et la sexualité reste un domaine très important pour que la personne en situation de handicap puisse s'épanouir, parce qu'avant d'être des personnes en situation de handicap ou handicapées, comme vous voudrez, quand à chacun utilise le terme pour lequel il se sent bien, on a besoin d'être des personnes épanouies. Et la sexualité, on est pour beaucoup, je pense. Du coup, pour les professionnels, il y a encore beaucoup de professionnels qui ont besoin d'être formés, qui pensent encore pour beaucoup que parce que je suis en fauteuil, je ne sens pas mes jambes. C'est faux. Je sens tout mon corps. Et j'ai besoin d'un suivi gynécologique, comme toutes les femmes, et je peux ressentir la douleur. Ça ne va pas de soi pour tous les professionnels. Et croyez-moi, ça a été là aussi. C'est pour ça que ça, c'est cher à mon cœur de venir témoigner chez vous aujourd'hui. J'ai besoin de dire aux professionnels, écoutez vos patients. Toute personne en situation de handicap peut ressentir son corps et peut ressentir la douleur. Donc voilà, je demande aux professionnels d'écouter, de nous écouter. Voilà.
Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que vous avez dit quand vous dites une personne handicapée, on la considère comme quelqu'un d'asexué. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé en établissement et tout ce qui concernait la vie sexuelle de la personne ou la vie intime, la vie affective, j'ai toujours trouvé que c'était mis de côté. Et quand j'intervenais pour parler de ça, c'était « bon, on en parlera une autre fois, on verra, oui, il faut qu'on en parle ». Enfin, jamais on abordait clairement le sujet. Et je voulais savoir si vous, dans votre association, vous intervenez dans des établissements pour faire comprendre justement aux professionnels l'importance de ce thème, de ces propos.
On essaie. Il y a 3 ans, Florence Mégécaz, la présidente de l'association Handiparentalité, a été à l'initiative d'un théâtre forum justement centré sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Il y a eu des scénettes, de mise en place, voilà, des choses comme ça. On a vraiment ce désir d'intervenir dans un domaine aussi intime que la sexualité, parce qu'il peut y avoir sexualité sans parentalité, mais pas l'inverse. Donc c'est quand même important qu'on puisse intervenir aussi dans le domaine de la sexualité. À ce propos, en juin, le 17 exactement, il y aura une conférence sur la vie affective des personnes en situation de handicap à l'Université Lyon 2. Donc j'y serai certainement, c'est en cours. Voilà. Et le 7 juin, il y aura le salon Handicap à Lyon, à Eurexpo. Et je risque d'avoir une place avec l'APF pour parler des préoccupations des parents en situation de handicap.
Donc tout d'abord, merci à vous Céline d'avoir pu témoigner. Et comme dernière question traditionnelle, avez-vous un message à faire passer aux auditeurs et au monde ?
Ce que j'avais envie de vous dire, c'est d'abord merci de m'avoir accueilli si chaleureusement ici. Merci d'avoir pu me donner la parole sur un thème encore malheureusement trop tabou dans notre société. Sachez que si vous avez des familles, des amis ou même vous-même, vous avez un désir de parentalité, vous pourrez toujours me contacter à mon adresse mail. C'est céline38@handiparentalité.com. Donc voilà, je pourrai répondre à vos questions. J'ai envie de dire aussi aux professionnels que prochainement, je reviendrai à l'hôpital Belledonne pour dialoguer avec le service puériculture et le service allaitement, comme il m'a été demandé. Voilà, je suis ouverte à toute proposition pour essayer de faire évoluer la cause et apporter un soutien plus personnalisé aux personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas et surtout ayez confiance en vous. Voilà, merci à tous.